Océane. Légende bretonne.
Et on retrouve aujourd'hui cette femme de lettres, spécialiste du patrimoine breton, notamment des mythologies celtiques, cofondatrice du Centre de l'imaginaire arthurien. Claudine Glot est avec nous. Bonjour Claudine.
Bonjour Yannick.
Et cette fois pour évoquer alors votre nouvel ouvrage, Fabuleuse forêt de France, qui vient de paraître aux éditions Cernunnos, et forcément qui a un lien avec nos légendes. Plus d'une trentaine de forêts hein, évoquées. Comment vous les avez sélectionnées et sous quel angle d'ailleurs vous les traitez dans votre livre, toutes ces forêts, même si on en a une petite idée.
Alors ça, c'était le plus gros problème, ce qui m'a peut-être pris le plus de temps, c'était décider qui prendre et qui laisser, parce que la France est très très riche hein, en forêts et en légendes. Donc j'avais un choix cruel à faire et je me suis fixée sur les forêts qui avaient bon, le légendaire le plus riche et qui avaient le légendaire aussi le plus original, parce que c'était pas la peine de répéter 10 fois la même... Oui, je vais te donner un exemple, ce qu'on appelle les petits pots bouillants, c'est-à-dire l'enfant échangé, l'enfant des fées échangé, on le trouve partout. Donc, il fallait
chaque fois localisé finalement, mais c'est la même histoire. Quoi,
mais c'est la même histoire et on le retrouve dans toute l'Europe. Donc il fallait que je trouve la forêt où ça irait le mieux, mais qu'il n'y ait pas que ce conte-là. Il fallait que pour parler d'une forêt, il y ait un faisceau de légendes. Après, la forêt n'avait pas à être immense. C'est-à-dire que je traite aussi bien la forêt de Retz à côté de Paris, qui n'est pas très très grande, et les Landes. Vous voyez, donc là, on a quand même le grand écart entre une petite forêt et puis la plus grande forêt de la France métropolitaine. Quand ça a été fait, il a fallu ordonner ça pour faire un parcours et patchwork. Et puis après, on est parti vers l'écriture, quoi.
Bon, et alors, on l'a compris, hein, des forêts de toute la France. Et la Bretagne, alors, dans tout ça, est-ce qu'elle est bien présente?
Oui, alors là, la Bretagne, bon, évidemment, on peut penser que j'aurais pu faire du favoritisme inconscient. Je peux pas l'exclure, hein. Je peux pas l'exclure. Non, la Bretagne a vraiment une richesse incomparable. En légende et en tradition fantastique, féerique, merveilleuse, historique, transformée. Et c'était le sujet, hein, c'était fabuleux, c'est la fable, c'est l'histoire qu'on raconte. Et je me suis retrouvée obligée de restreindre la Bretagne à Brocéliande et à la forêt de Huelgoat. J'aurais aimé prendre le Béfou, le Cranou, mais voilà, c'était pas possible. Sinon, c'était la fabuleuse forêt de Bretagne.
En tout cas, elle s'est imposée d'elle-même, cette Bretagne. Et justement, Claudine, est-ce que vous avez quelques exemples de forêts que vous mettez à l'honneur en particulier dans cet ouvrage?
Oui, alors je me suis rendu compte aussi parce qu'on croit qu'on connaît les choses et puis en les écrivant, on les découvre à mesure aussi. Parfois, elles se transforment. Je me suis rendu compte que, par exemple, je n'aurais pas parlé des Landes spontanément parce que dans nos esprits, les Landes, c'est une forêt plantée comme on a planté des poireaux et juste il y a plus longtemps. Et en fait, les Landes ont une histoire très ancienne, très passionnante, avec une accumulation de cultures, une transformation de paysages. Il y a eu des forêts dans l'Antiquité, il y a eu des plantations sous Louis XIV et après, il y a eu la grande plantation qu'on connaît. Et en plus, il y a des sorcières, il y a des fées, il y a des dolmens, il y a des curés qui pratiquent des cultes un peu bizarres, et il y a des sources qu'on honore. C'était très riche. Donc celle-là, je l'ai mise à l'honneur. Et puis autrement, mais je crois que mes préférés, ça va être... Bon. Sortie de la Bretagne, j'ai toujours été fascinée par la forêt d'Irati, l'Irati. On n'a que le petit côté, qu'un petit bout d'Irati, le reste en Espagne, mais c'est la forêt des Pyrénées qui est restée très protégée très longtemps. De vacances répétées, je me rappelais aussi l'impression totalement forestière que donne la Corse, la forêt qui est partout. Là, on peut traverser la Corse dans les deux sens sans quitter la forêt. Et il y a un légendaire et des coutumes extraordinaires et parfois presque effrayantes. Et puis, j'aime beaucoup aussi la grande de forêt d'Ardennes, parce que c'est la jumelle de Brocéliande. Beaucoup plus grande, mais avec la même atmosphère, le même passé, le même fourmillement. Et c'est aussi intéressant, parce que c'est une forêt qui nous prolonge un petit peu. Elle va en Belgique, où elle est tout à fait pareille, bien sûr, une ligne de frontière ne coupe pas des légendes et des traditions en deux. Donc voilà, ça c'était des forêts dont j'ai aimé parler. À vrai dire, je me suis attachée aussi à des forêts comme la forêt d'Orléans, qui me paraissait plus plate, et puis dont je connaissais le légendaire. Et qui en fait se révèle intéressante parce qu'elle a des réseaux souterrains, elle a des trous où on disparaît, où on peut aller au centre du monde ou presque. Enfin, vous voyez, après, une forêt qu'on commence à en visiter, ne serait-ce qu'au point de vue légendaire, est forcément intéressante.
Les Bretons, les Basques, les Corses, des peuples forts hein, qui sont très forestiers finalement.
Ils sont très forestiers et ils ont conservé leur patrimoine. Je ne dis pas qu'ils sont conservateurs, ça donnerait une notion qui n'est pas juste, mais c'est des gens qui ont une mémoire. et qui la font vivre. Alors, est-ce que la forêt les y aide ? Peut-être. C'est un lieu où on se retrouve face à soi-même et face à tout ce qu'on porte. Donc, on porte notre passé aussi légendaire, mythique. Et je crois que la forêt le ressuscite bien. La Bretagne, c'est vrai que la Bretagne, en statistique, n'est pas si forestée que ça. Mais en pratique et dans l'esprit des gens, il y a mère forêt pour la Bretagne.
Ouais, elle reste très, très, très présente. Et vous y traitez, Claudine, donc de nombreux personnages de légende, on l'a bien compris, hein, Dame Blanche, Ogre, Fantôme et autres lutins parmi d'autres, moins connus, et c'est ce qui est intéressant, que moi je ne connaissais pas en tout cas, comme par exemple les Vouivres. Mais qui sont-ils ? Vous pouvez nous les présenter en quelques mots ?
Oui, alors les Vouivres, ce sont des monstres, c'est plutôt la partie est de la France, la Bourgogne, le Jura, c'est le serpent, la femme serpent ou le serpent femme. Et la particularité de la Vouivre, c'est d'apparaître de temps en temps au bord des étangs où elle va se baigner ou boire. C'est un serpent qui porte ce qu'on appelle une escarboucle, c'est-à-dire un énorme rubis au front, et elle le pose au bord de l'eau, elle va boire. Et si on arrive à s'emparer du rubis, on est riche à jamais. Mais en général, la Vouivre vous rattrape et vous fait payer très chèrement ce vol. Mais c'est un personnage ancré dans un passé très ancien. Là, on peut parler aussi de passé celtique, hein, de ces formes de dragons, en fait. C'est aussi un petit dragon en son genre, la Vouivre.
La Vouivre, et vous nous parlez aussi alors de veneur noir, que je ne connaissais pas non plus.
Alors, il y a dans beaucoup de régions des légendes de chasse sauvage. Alors, ce sont des chasses sauvages, des chasses de fantômes, des chasses de morts. Elles passent dans le ciel, souvent dans la période après Noël, mais parfois aussi aux grandes chaleurs de l'été, et elles sont menées par des personnages connus, comme ça peut être Nabucodonosor, ça peut être le roi Arthur, et dans une partie de la France, elles sont menées par un chasseur noir, un veneur, un grand veneur, comme on trouve dans les chasses à cour. Donc ce veneur est entièrement noir, donc extrêmement diabolique, mais il ne fait pas de mal aux gens. Il ne faut pas interférer quand la chasse sauvage arrive, et ça se passe bien. Par contre, le veneur noir, il apparaît parfois aussi comme un porteur de présages. Bon, pas de très bons présages. Hein. Il peut apparaître pour annoncer le destin des rois. On dit qu'Henri IV l'a vu dans une des forêts autour de Paris, et que on sait comment ça a fini assez rapidement après, avec Ravaillac. Mais c'est un nom magnifique, le veneur noir.
Veneur noir, Vouivre et un tas d'autres personnages donc à découvrir dans cet ouvrage. De manière en général, on le disait d'ailleurs avec les Vouivres, il y a beaucoup de références aux Celtes hein, qui sont extrêmement présents finalement dans beaucoup d'endroits. Ça n'a apparemment pas toujours été le cas.
Non, les Celtes ont été... les Celtes, c'est une redécouverte qui est toujours en cours, que ce soit par l'archéologie ou par l'étude, par les médiévistes, par les celtisans, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin quand même. Mais en ce moment, les Celtes sont à la mode parce qu'il y a un mélange de passé qu'on veut retrouver, de spiritualité qu'on devine et qu'on reconstruit. Donc, je me suis rendu compte que, et ça, c'était pas forcément un plaisir, parce que autant on est content de voir revenir des choses enfouies sur les Celtes, autant il y a un usage qui, en effet, qui est assez commercial. Et je me suis rendu compte que, parce que je suis beaucoup promenée sur les sites, que ce soit de l'ONF, des offices de tourisme, des régions forestières, pour voir comment on présentait la forêt, et je me suis aperçue, notamment dans le tourisme, qu'on mettait des Celtes partout. Et là, on a vaguement l'impression que le celte et le druide, surtout, sont un produit d'appel.
Et qu'on dénature, en plus, finalement.
Ben oui, qu'on caricature, pas méchamment, mais voilà, c'est la serpette en or, hein, puis c'est des draps blancs, et en plus, on se retrouve avec les vieilles choses du 19e dont on sait qu'elles ne sont pas vraies. Il y a des dolmens, donc il y a eu des celtes, oui, bien sûr, puisque les celtes sont venus après des dolmens. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui les ont créés, ni que c'est eux qui ont célébré un culte. Il y a toujours ce mélange, et je trouve que c'est dommage, à l'heure où on en sait plus, qu'on pourrait faire mieux connaître les Celtes. Quoi, voilà, c'est un petit peu... À un moment, ça m'avait amusé, parce que je trouvais que le Celte, dans sa cé blanche, enfin, le druide, avec sa cé blanche, sa serpette et sa cérémonie, c'était un peu comme les jeunes filles habillées court qu'on met au salon de l'auto, vous voyez ?
Ok, on voit bien l'image, Claudine.
Alors, voilà,
Bon, ben voilà, en tout cas, on a bien entendu ce petit coup de gueule, on peut l'appeler comme ça, de Claudine.
De ronchonne.
Voilà, c'est mignon. Pour terminer, Claudine, on peut pas évoquer votre livre sans évoquer quand même les illustrations.
Ah, ça, c'est le magnifique travail qu'a fait mon éditrice Amélie Rétoré. On avait envie de sortir du... Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup vu, de très belles, d'ailleurs, images de fées vaporeuses, de korrigans. On a un tas de dessinateurs bretons qui sont hyper brillants pour dessiner les korrigans. Mais on avait envie de sortir un petit peu de ça, parce que ça fait 20 ans que ça se répète, et de donner son importance à la forêt, aux peintres de forêt. Et il y avait une chose, moi, qui m'avait frappée, j'en parle un tout petit peu, c'est qu'on parle toujours des parcs nationaux, de protéger la forêt. La première réserve forestière, donc, qui est l'amorce d'un parc national, eh bien, elle s'est faite à Fontainebleau sous la pression de peintres de forêt ou de poètes comme Victor Hugo ou d'écrivains comme George Sand. Et pour eux, la forêt était le lieu d'inspiration à protéger. Et ça, c'était même avant les premiers parcs américains. Donc, il y a vraiment une importance donnée à cette peinture de forêt du 19e siècle. C'est pas non plus par hasard. Hein. C'était vraiment montrer la beauté de la forêt transfigurée par le regard du peintre, quoi.
Bon, ben voilà, vous nous avez donné envie. On n'a plus qu'à se procurer simplement Fabuleuse forêt de France par Claudine Glot aux éditions Cernunnos, désormais disponible en librairie. Merci beaucoup, Claudine.
Merci à vous et à bientôt.